car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voilà, cette parole vient se rajouter à ce moment qu'on vient de vivre, à tous ces moments avant. Le Seigneur nous a dit d'ouvrir notre cœur pour avoir un cœur de serviteur. Vous vous rappelez la parole d'Anne Griffy? Pour nous, Wavrins, vous avez un rôle de servir la table collective commune de la région des serviteurs. Votre point de départ, c'est être serviteur avec la compassion. Et elle l'avait partagé avant, dans un cercle plus fermé, quand on était chez nous avec des responsables dans Brasnocœur de la région lilloise. Et elle l'avait partagé aussi, je l'ai entendu ça plusieurs années avant, Lille, je vois Lille pour servir. La particularité de Lille, de la ville de Lille, de la région lilloise, servir. Et j'étais touché de ce que, avec Annette, c'était quand, il y a un mois et demi, deux mois, on est allé assister à une cérémonie à la cathédrale de la Treille, à Lille, et encourager un de notre fraternité en Brasnocœur, qui était ordonné diacre. Un homme marié, donc il y avait 5 hommes mariés ordonnés diacre. Et cette cathédrale était pleine de monde. Il y avait une atmosphère priante. On était, nous, notre comité en Brasnocœur, on a partagé 1 heure et demie après, tellement on était encouragés. Il y avait des catholiques plus traditionnels, des catholiques du renouveau, et il y avait même des évangéliques à la cathédrale de la Treille. Incroyable quand même. Quand on s'est retrouvé un pot d'amitié, et on avait tous ce signé, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est comme si le Saint-Esprit me disait, tu vois cette parole d'Anne Griffy, vérifie-la, tu la vérifies là. Tu la vérifies. Je suis en train de dire à une partie de l'Église qui représente la région lilloise, oui, vous êtes appelés à servir. Alors, moi quand j'ai entendu cette parole d'Anne Griffy, je me suis dit, tiens, la prochaine fois que je donnerai un message, enfin quoi que non, entre deux j'ai donné autre chose, mais en tout cas, j'avais reçu de parler sur ce thème du serviteur. Parce que si Dieu nous appelle à ça, mettons-nous en route, vous êtes d'accord? Mettons-nous en route ensemble pour devenir des serviteurs. Vous êtes d'accord? Oui? Vous voulez être serviteur et servante du Seigneur? Oui? Est-ce qu'on veut l'être? Oui? Je l'espère, hein? Alors, voilà, je vous propose d'avancer dans cette notion de serviteur. Alors je voudrais faire quelques remarques. J'ai commencé par le Saint-Esprit, il m'a dit, voilà, tu prends la Bible online dans la Bible et tu sors tous les passages qui parlent de serviteur, avec un S, sans S, servir. D'accord? Et alors, j'y ai pensé plusieurs fois. Mais le Seigneur m'a conduit vers des passages, notamment Marie qui a dit « Je suis la servante du Seigneur ». Alors ça je l'ai bien noté, bien sûr. Serviteur, servante, voilà. Et alors donc ce que j'ai remarqué, c'est que, quelques remarques, hein, tous les hommes de Dieu et toutes les femmes de Dieu de la Bible, pratiquement tous ce qualificatif de serviteur, de servante. Pratiquement tous. Chaque fois que leur nom est indiqué dans la Bible, presque chaque fois, il y a le mot serviteur ou servante qui accompagne. Donc les écrivains de la Bible parlent d'eux comme des serviteurs, des servantes. Ces hommes et ces femmes de Dieu aiment dire qu'ils sont serviteurs. Marie, je suis la servante du Seigneur quand l'ange lui apparaît. Samuel, parle, car ton serviteur écoute. Et Dieu lui-même aime appeler ses bien-aimés serviteurs. Quand il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur, Job ? Quand il parle au peuple d'Israël, mon serviteur Caleb, lui, regardez comme il était animé d'un autre esprit. Mon serviteur Moïse, mon serviteur Josué, etc. D'accord ? Donc, la notion de serviteur était présente. Une autre chose que j'aimerais vous dire, la plupart de ces serviteurs ont appris, avant de devenir serviteurs de Dieu, à se mettre au service de quelqu'un. Ça, c'est intéressant. Ils ont appris à se mettre au service. Moïse était au service de son beau-père, Jéthro. Josué était au service pendant longtemps de Moïse. Il était dans la tente d'assignation, hein, la tente de la rencontre. La notion de serviteur est partout dans la Bible. Dans les livres historiques, les prophètes, les psaumes. On pourrait faire une étude d'ailleurs sur la prière du serviteur dans les psaumes. Les évangiles, Jésus utilise constamment ce concept de serviteur, dans les paraboles notamment. Et jusque dans le dernier livre même de l'Apocalypse et le dernier chapitre. Je lirai tout à l'heure une référence. Hein. Je vais vous dire là maintenant 7 passages qui montrent que le thème du serviteur est central dans la Bible. Il y en a un que je viens déjà de lire, évidemment. Vous l'avez tous entendu. Donc c'est Marc 10, 45, par rapport à la mission de Jésus. D'accord ? Hein, Marc, notez bien ceux qui prennent des notes. Donc Marc 10, 45, Jésus est venu, je suis venu, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Ça fait partie du thème central de la Bible, c'est la mission de Jésus, c'est en rapport avec la mission de Jésus. Mais, un deuxième passage, dans Acte 2, verset 18, en rapport avec la promesse du Saint-Esprit, l'Esprit est répandu sur mes serviteurs et sur mes servantes. D'accord ? Acte 2, verset 18. Donc, le thème de serviteur en rapport avec la promesse du Saint-Esprit. Troisième passage aussi. Le thème de serviteur en rapport avec l'aspiration et l'ambition spirituelle. Jésus qui a dit dans Marc 9, 35 ou dans Matthieu 10, 26. Je vais doucement, pardon, si je vais trop vite. Que celui qui veut être grand parmi vous soit votre serviteur. Tu veux une place dans l'église, apprends à servir. Apprends à servir. Je me souviens quand j'ai pris un temps de désert au mont des cas, que j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce qui est important pour le disciple, pour un responsable? Le Seigneur m'a tout de suite dit, lis l'évangile de Jean, puis je t'arrêterai sur différents passages. Et le Seigneur m'arrêtait sur Jésus qui lavait les pieds de ses disciples. Un moment sur la mère de Jacques et de Jean qui disait « Est-ce que tu voudrais bien que mes deux fils soient en avant ?» Puis que Jésus qui a répondu « Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire ?» D'accord ? Voilà. Le thème de serviteur 4, en rapport avec nos relations dans l'Église, Galates 5, 13. « Rendez-vous par l'amour » serviteurs les uns des autres. Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. En rapport aussi, 5, avec nos relations dans le monde et avec les autorités. Et là, on peut citer Éphésiens 6, verset 6. Où il est parlé qu'on est appelé à servir les autres comme si on servait Christ. les autorités. Servons-les comme si on servait Christ. En rapport avec l'évangélisation, et avec le souci de gagner des âmes, 1 Corinthiens 9, 19. Je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Et un septième point qui montre la place centrale du thème de serviteur dans la Bible en rapport avec l'éternité. C'est le passage que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait allusion. Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. D'accord, je vous rappelle ces sept points-là rapidement, hein, qui montrent la place centrale en rapport avec la mission de Jésus, en rapport avec la promesse du Saint-Esprit, en rapport avec toute aspiration ou ambition spirituelle, en rapport avec nos relations dans l'Église, en rapport avec nos relations dans le monde et les autorités, en rapport avec l'évangélisation et en rapport avec l'éternité. Donc, la notion de serviteur est incontournable. Et Dieu veut qu'on ait vraiment ce cœur de serviteur. Alors, j'avais envie de dégager, et là j'étais un peu inspiré par un serviteur de notre du XXe siècle, qui est Watchman Nee. Qui a entendu parler Watchman Nee? Oui, vous connaissez certains, oui. Il a écrit des livres remarquables. C'est un serviteur remarquable. Il était en prison en Chine pendant de longues années. Il écrit un livre, Le vrai serviteur. Je me suis inspiré un peu là de lui pour dégager 8 caractéristiques du caractère de serviteur. D'accord? Puis ensuite, on va prier par rapport à ça. Mais avant ça, Annette, elle me dit, t'es sûr, tu vas pas écraser les gens en parlant de ça, parce que il faut toujours écouter sa femme, hein, les bons conseils qu'elle adresse. Et regardons, méditons ces choses sous l'inspiration de la grâce. D'accord? Sous l'inspiration de la grâce. Et j'aimerais faire quelques remarques avant. Juste avant de dégager ces 8 caractéristiques du serviteur. La première remarque, c'est au sujet de la nature de notre service. Nous servons Dieu et non pas l'institution ou l'Église. Alors on peut mal comprendre ce que je suis en train de dire. Ça pourrait justifier, j'ai pas besoin de l'Église, je peux servir Dieu en dehors de l'Église. C'est pas ce que ça veut dire. Parce qu'on est dans un corps. Donc je sers automatiquement dans l'Église. Mais quelle est la tentation de beaucoup de chrétiens? Ben, il faut combler. Faut combler les activités, voyez, faut faire des choses, et puis on se compare avec telle église, t'as vu, telle église qui font, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Attention, attention, on sert Dieu, et non l'institution. On sert Dieu avant tout. Et bien sûr, mon service pour Dieu m'amène à servir dans l'église. Mais je le sers aussi dans ma profession. Je le sers. C'est toute ma vie qui est service. Vous comprenez? Et ça, c'est vraiment important. Et la tentation, je vous assure, est grande de glisser continuellement dans le faire. Faire, F-A-I-R-E, oui. Oui, oui. Dieu est plus intéressé par ce qu'on est que par ce qu'on fait. Mais forcément, ce que l'on est va rejaillir dans nos actes. Forcément. C'est Pierre qui dit que si ces choses, ces vertus de Dieu-là, ces traits de caractère de Dieu sont en nous, elles vont pas nous laisser oisifs et stériles. C'est clair, hein? D'accord? 1 Thessaloniciens 1, 9, je cite ce passage pour illustrer, céleste que je viens de dire, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Une deuxième remarque que je fais aussi sur la nature de notre service. Nous devons chercher à ce que notre service soit le fruit de notre communion avec Dieu et les uns avec les autres. Parce qu'on sert justement un Dieu de communion. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Si je suis dans plein d'activités avec mon frère, ma sœur, mais que, par exemple, je ne partage jamais à mon sujet des émotions que j'ai, de certains combats que j'ai, que je ne peux pas demander l'aide de mon frère ou de ma sœur, je n'y arrive pas, je suis seul. Est-ce que je suis vraiment en train de servir le Dieu de communion? Mon service doit être le fruit de la communion avec Dieu et les uns avec les autres. Je préfère un petit troupeau dans l'église, mais qui vit en harmonie, uni, qu'une foule de gens qui font plein de choses, qui peut-être impressionnent autour. Mais s'il n'y a pas cette harmonie, s'il n'y a pas cette communion, on passe à côté. Parce que l'aspiration de Dieu pour nous, c'est la communion. Est-ce que vous comprenez? Et que nos œuvres soient le fruit de la communion. Donc il faut vraiment, quelquefois c'est bon de se poser quelques questions, quoi. Est-ce que je peux avoir de l'aide? Est-ce que je peux partager mes émotions à mon frère, ma sœur, d'accord? C'est ça qui va porter du fruit, c'est ça le vrai fruit. 1 Corinthiens 1:9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1:3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et le Fils. Troisième remarque, et je l'ai plus ou moins dit déjà, notre service doit être aussi le fruit de la grâce de Dieu. Parce que je suis touché par la grâce, je sers. Je sers pas pour soulager ma conscience, pour prouver à quelqu'un, aux autres, vous comprenez? Mon service doit être le fruit de la grâce de Dieu. Et c'est Paul qui a cette parole remarquable dans 1 Corinthiens 15, verset 10, et j'aimerais que vous ayez constamment cette parole quand on va voir les caractéristiques du serviteur, parce que moi j'ai pas envie de vous écraser, j'ai envie de vous encourager. Et soyez encouragés par Paul, qui dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est la grâce de Dieu qui a fait ce que Paul est devenu. Alors ne vous laissez pas décourager si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas la victoire dans certains domaines. Ayez confiance dans la grâce de Dieu. Ayez confiance dans le travail de la grâce de Dieu. Et à un moment, Paul se sentait très faible. Il a crié à Dieu. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. D'accord? Alors ne perdons pas de vue toute cette matinée pendant qu'on... Parce que Dieu est un Dieu exigeant, c'est vrai. Il place la barre haut. Mais il est plein de grâce. Il est plein de grâce. Et c'est sa grâce qui va nous amener plus loin avec lui. Et c'était vraiment curieux, le matin, c'était mercredi dernier, alors que je priais par rapport à ce thème de serviteur, j'ai eu ce passage de 1 Corinthiens 1, verset 30, qui dit ceci, Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Monique, tu es en Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi, mais je le dis à toi. Mais je peux le dire à chacun d'entre nous ici aussi. Tu es en Jésus-Christ, et parce que tu es en Jésus-Christ, eh bien, la sagesse de Jésus-Christ est en toi. La sanctification est en toi, la rédemption. Donc si à un moment tu te dis, « Oh, j'ai pas la solution », eh bien, là, je vois pas. Tu peux dire, « Jésus, qui est en moi, a la solution ». Si tu es découragé sur un trait de ton caractère, l'un ou l'autre, vous êtes découragé, eh bien, tu peux te dire, « Jésus me rend saint. Jésus me sanctifie. Il est en moi. » D'accord ? Hein ? Alors, voyons, en deuxième partie de ce message, donc, allez, 8 caractéristiques. 8 caractéristiques du vrai serviteur. Sans oublier, donc, tout ce qu'on vient de dire, que c'est la grâce qui va produire ça en nous. Et c'est la grâce de Dieu qui produit ça en nous. Elle va le faire, d'accord? Ok? Voilà. Première caractéristique. Alors, Watchman Nee l'a traduit par un mot, moi je le traduis par un autre mot, mais ça veut dire la même chose. Je préfère le mot que le Seigneur m'a montré. Bon, ça c'est une question de... Watchman Nee dit travailleur, moi je préfère zélé. Travailleur, ça fait un peu... zélé. Zélé, plein de zèle. Voilà. Plein de zèle. C'est Paul qui dit dans Romains, « Ne devenez pas nonchalant dans votre travail, faites-le avec énergie et zèle. » Ah, la nonchalance nous guette, hein, quelquefois. La nonchalance nous guette. Mais la grâce de Dieu veut produire en nous ce zèle. Éphésiens 6, « Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile. » Ça parle d'un service joyeux. D'accord ? Vous savez que quand on est joyeux, on abat beaucoup plus de travail. Quand on est joyeux, on abat beaucoup plus de travail, on a beaucoup plus d'énergie. La joie du Seigneur sera votre force. Ah, si tout votre service devient un fardeau, si venir le dimanche c'est un fardeau, alors attention, il faut vite rectifier ça. Ça va pas. D'accord ? Ça parle d'un esprit de conquête aussi. Alors je reprends une phrase de Watchman Nee. Il faut que nous cultivions une attitude intérieure qui cherche sans cesse à faire de nouvelles conquêtes dans le domaine spirituel. Un esprit de conquête. À la fois, ça parle des âmes. Un Jésus qui dit, regardez, les champs blanchissent pour la moisson. Regardez, il y a des gens à côté de nous là qui ont soif de spiritualité, même s'ils ne savent pas toujours l'exprimer. Mais ça parle aussi de conquête dans le sens de découvrir un peu plus de Dieu dans les Écritures, découvrir un peu plus de son amour, la profondeur de son amour. D'accord ? Le zèle. Le zèle chasse l'oisiveté. Et l'oisiveté trouve ses racines dans la paresse et le zèle en est le remède. D'accord ? Tout à l'heure, on va prier pour ça si vous voulez. D'accord ? Que le Seigneur nous garde zélés par sa grâce, par son esprit. Deuxième caractéristique du serviteur, il est stable. Stable. Pas inconstant. Et généralement, l'inconstance vient de ce qu'on est souvent gouverné par nos sentiments ou par nos émotions. Alors rassurez-vous, Pierre, le solide apôtre, était un inconstant pendant une partie de sa vie. Alors si lui a changé, et il a changé, alors on peut tous changer, d'accord ? On peut tous changer. Il était gouverné un peu par ses sentiments et ses émotions. Hein. Et sa conduite était imprévisible, comme celle de toute personne dirigée par ses sentiments. Notre amour doit pas être seulement un attachement sentimental. D'accord ? On doit avoir un caractère semblable à la nature de l'Église. C'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens 15, 58, « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Pierre a changé. Pierre est passé par un brisement et c'est ce brisement qui l'a amené à changer. Alors quelquefois, ben, Dieu nous conduit dans des brisements. Ce n'est pas nous qui sommes cassés, hein, d'accord ? C'est notre orgueil souvent qui est brisé, ou notre confiance en nous-mêmes qui est brisée, d'accord ? C'est ça qui doit être brisé. C'est pas que Dieu nous casse. Il y a un verset qui dit « Il ne brise pas le lumignon qui fume », d'accord ? Mais notre orgueil a besoin d'être brisé, notre confiance en nous-mêmes. Voilà. Mais nous devons placer la barre là, d'accord ? Viser cette stabilité. Viser le zèle, viser la stabilité. Troisième caractéristique, le serviteur de Dieu, il aime tout le monde. Ça paraît évident ce que je dis, mais c'est important. Il aime tout le monde. Il a capté que Dieu aime tout le monde, ne fait pas exception de personne. Quelle que soit la race, la couleur, la catégorie sociale, Dieu aime tout le monde, le vrai serviteur, il aime tout le monde. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Il aime tout le monde. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas facile d'aimer tout le monde, il y a des moments où on est humain. Ah, oh, celui-là ou celle-là. Mais je vous rassure, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Jésus à un moment? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jésus avait du mal à supporter ses disciples. Jusqu'à quand vous supporterai-je? En parlant à ses disciples, Jésus a dit. Ça veut dire qu'il était tenté de ne plus supporter ses disciples. Mais il est allé jusqu'au bout, il a supporté quand même. Il a supporté ses disciples, il a supporté Judas, il a supporté Pierre avec son inconstance. Donc c'est pas parce qu'on a la tentation de ne pas supporter qu'on succombe déjà, hein? Bon. Mais ça, c'est très important. Watchman Nee dit c'est un élément fondamental. L'amour pour les frères, mais aussi l'amour pour l'humanité tout entière. N'oublions pas que Jésus est venu chercher ce qui est perdu. Notre amour doit englober tout le monde. Tout homme est notre prochain. Mon prochain, quel qu'il soit, a été créé à l'image de Dieu. Il lui est infiniment précieux. Et ça, à un moment, le Nouveau Testament met en garde. Si tu vois quelqu'un qui a mal, mauvaise allure, là, qui rentre, tu vas le traiter comme un moins que rien. Et puis un riche va arriver, tu vas bien le traiter. C'est pour ça que Dieu se plaît à envoyer des pauvres régulièrement dans notre Église. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être, pour reprendre certaines expressions qu'on entend quelquefois, on n'est pas au service de l'ego de la personne. Si la personne vient avec tous ses problèmes et son besoin de délivrance, on n'est pas au service de l'ego, hein, de la personne. On est redevable de l'aimer, pas de lui plaire. Vous comprenez? Mais voilà, Dieu régulièrement envoie des gens difficilement aimables pour nous apprendre à aimer tout le monde, être patient. Si Dieu veut nous envoyer des gens blessés, comme il semble nous dire à travers la parole d'Anne Griffy, ben voilà, il faut être prêt. Hein? Il faut être prêt à les aimer, tels qu'ils sont. On a chanté tout à l'heure, tel que je suis, viens à moi, je viens à toi. Et on a besoin d'accueillir les uns les autres. Voilà. Dans l'Église, on doit s'appliquer donc à ce que Paul nous dit dans Romains 15, 7. Accueillez-vous donc affectueusement les uns les autres, tout comme Christ vous a accueilli. Notre horizon ne doit pas être limité. Demandons à Dieu cette largeur de cœur, vraiment, qui n'est pas un horizon limité. Alors ça ne veut pas dire que Dieu va nous demander au-delà de plus que ce qu'on est capable. D'accord, ça ne veut pas dire qu'on est capable maintenant de prendre en charge 20 clochards, par exemple. Dieu sait ce qu'il fait, il ne va pas. D'accord. Mais voilà, il va avec nous pas à pas. Mais je crois que ça paraît évident et pourtant c'est tellement important. quand je dis d'une façon déterminée, je ne peux pas supporter quelqu'un et je ne le supporterai pas, je suis en train d'aller contre l'Évangile. Hein? Quatrième caractéristique. Ouh, ça c'est celle qui... Enfin, c'est une caractéristique pour laquelle j'ai besoin de la grâce de Dieu, parce que c'est, je trouve que c'est difficile. Un, il sait écouter, savoir écouter. Savoir écouter. Je disais tout à l'heure qu'on doit être capable de parler de soi, mais à l'inverse, si dans les conversations avec les autres, je parle tout le temps de moi, c'est un problème. D'accord ? Hein, il ne faut pas être centré sur soi-même non plus. Donc il faut savoir écouter, bien entendu. Jésus savait écouter. Il savait entendre ce qui est dit, c'était dit, il savait entendre ce qui n'était pas dit. Et il savait susciter justement ce qui n'a pas été dit pour... Il savait discerner ce qu'il y avait dans les non-dits, je dirais. Hein? Pour devenir un auditeur attentif, je crois qu'il faut laisser la croix opérer en nous, hein, certainement, dans nos vies, pour nous libérer de notre moi, hein, qui nous absorbe, qui nous rend sourds, besoin des autres. Écouter, c'est un art. Moi, je dis souvent à Annette, elle sait mieux écouter que moi. Ouais. C'est un art à cultiver. On ne doit pas, c'est Watchmani qui dit ça, et je crois que c'est vrai, on ne doit pas aborder les gens avec des idées préconçues. Car alors, on aura beaucoup de peine à enregistrer ce qu'ils veulent dire. Puisque nous disons à l'avance, nous faisons notre conclusion à l'avance. D'accord ? Savoir écouter. Savoir apprendre à calmer notre esprit quand notre esprit est agité par... Comment voulez-vous être attentif à ce que l'autre vous dit, hein? D'accord? Donc c'est apprendre à calmer notre esprit aussi. Apprendre à calmer notre esprit, qu'il ne soit pas englué, hein, dans nos soucis, nos tracas. Cultiver la bienveillance aussi. Là, je rappelle simplement Jésus qui, à un moment, s'est tourné vers le jeune homme riche là, il l'a regardé et il l'a aimé. Cinquième caractéristique. Il mesure ses paroles, le serviteur. Mesurez ses paroles. Matthieu 5, 37, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Jésus, quand les gens cherchaient à lui poser des questions, lui tendre des pièges, souvent, qu'est-ce qu'il a fait? Le silence. Quelquefois, ben, vaut mieux le silence. Quand on n'a pas envie de répondre, parce que c'est délicat, ou parce qu'on est incapable de répondre. On peut le dire poliment. On peut dire poliment, tu sais là, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Plutôt que de se perdre parfois dans des discours diplomatiques. Bien sûr, veillez à respecter la confidentialité des propos qui nous sont rapportés quelquefois dans des entretiens privés. C'est important ça pour garder la confiance des autres. Et Paul... qui est très terre à terre, nous dit 2 Timothée 2, 24, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Là, bien sûr, aussi. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, qu'il s'en porte jamais, mais il ne faut pas qu'il soit adonné aux querelles. Hein? Sixième caractéristique. J'avais prévu de mettre tout ça sur transparent, mais je vais vous le rappeler après. Hein. J'ai pas eu le temps. Souple, enseignable, capable d'apprendre. Capable d'apprendre. Je reprends une parole de Watchmani. Le secret du progrès spirituel est la réceptivité à l'égard de Dieu. Aussi devons-nous ouvrir tout grand notre cœur et notre esprit à son influence. Plus nous deviendrons maniables, plus l'obéissance sera instantanée. Psaume 32, versets 8 et 9. Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Apprenons à nous méfier de nous-mêmes, hein. Apprenons l'humilité pour éviter l'attitude dominatrice. Hein. Et cette humilité doit nous conduire à être capables d'apprendre des autres. Quand est-ce la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un « Merci pour ce que tu m'as dit ». Ça m'a aidé. Merci pour ce que tu m'as dit, ça m'a aidé. Tu avais raison. Ah, le français, il aime bien avoir raison. Et le français, il faut qu'il passe par la croix pour que de temps en temps, il puisse dire « Ben là, j'ai eu tort. Hein ». Ok ? Cette capacité, pour moi, ça, c'est très important. Cette capacité d'apprendre. Dans un groupe, j'ai été choqué par une parole, mais c'est pas d'ici, c'est pour ça, sinon je le mentionnerai pas, hein, d'accord, je le mentionnerai pas. Mais, donc c'est tout à fait à l'extérieur, c'est pour ça que je suis libre et je cite pas de nom, comme ça. Mais, je parlais avec quelqu'un d'autre, mes expériences d'unité avec les catholiques, puis quelqu'un m'a dit, oh bah oui, on peut leur apporter quand même beaucoup, hein. Donc c'est bien d'avoir le contact avec eux. Moi, j'ai, tout de suite, l'autre, mon ami, a renchéri, mais ils peuvent nous apporter aussi. D'accord. Non, mais. Bon, et quelquefois, on est présomptueux. L'autre, c'est bon uniquement pour ce que je peux lui apporter. Non, il peut m'apporter combien je trouve de modèles chez mes frères et sœurs catholiques. Combien je trouve de modèles. Quelquefois, bien sûr, nous, on est fort avec notre doctrine. Mais je trouve que quelquefois des frères et des sœurs catholiques ont quelque chose à nous apporter dans cette capacité de s'abandonner au Christ. Vous comprenez? Cette capacité de s'abandonner, de se livrer, de se donner. Alors bien sûr, on est capable d'apporter aussi, mais on est capable d'apprendre. D'accord? Rappelez-vous ce qu'on a dit au début, donc les grands hommes de Dieu ont appris la soumission. Éphésiens 5, 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Il reste deux caractéristiques. On est presque au bout. Septième. Le serviteur est armé de la pensée de souffrir. Il est armé de la pensée de souffrir. 1 Pierre 4, verset 1. Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. En français courant, puisque le Christ a souffert dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même disposition de pensée. C'est un petit peu... C'est pas tellement humaniste ça, hein, mais c'est dans l'évangile. Cette disposition d'esprit, nous dit la parole de Dieu, c'est comme une pièce de notre armure. Et donc si cette pièce de l'armure, elle manque, je risque d'être beaucoup plus fragile. Si je ne suis pas armé de cette disposition de souffrir quand l'épreuve va venir, hein, eh bien je risque peut-être de lâcher prise très vite. Mais si je suis armé, c'est-à-dire disposé, Seigneur, je suis prêt à souffrir pour ta cause, ben, je vais continuer à avancer. Vous comprenez? Et ça, c'est important. C'est important qu'on le soulève, ça. Je cite un exemple. Si tu es habitué à tes 7-8 heures de sommeil, d'accord? Bon, est-ce que Dieu ne peut pas toucher à ces 7-8 heures de sommeil? Jamais. Jamais, jamais. Et tu regardes, je suis désolé Seigneur, mais là, si je fais ça... Je vais avoir 4 heures de sommeil, c'est pas possible. Dieu peut-il nous bousculer quelquefois? Quelquefois, hein, bien sûr, pas tout le temps. Mais Dieu prend soin de nous aussi. Dieu prend soin de notre corps. Et Dieu, Jésus a pris soin de ses disciples. Venez à l'écart, hein, venez vous reposer. Mais quelquefois, il peut nous appeler à bousculer nos habitudes. D'accord? Bon, là, ça, c'est un aspect de la souffrance, mais il y a un autre aspect, ça peut être la persécution, bien entendu, aussi. Hein. Armez-vous de cette pensée, c'est une pièce de notre armure. Si je n'ai pas cette pièce, je vais être fragile. Et on doit dire ces choses, c'est dans la Bible. On sait tous que Dieu n'exempte pas ses enfants de l'épreuve. Si on n'est pas disposé à souffrir pour la cause du Christ, on va risquer d'être immobilisé quand vient l'épreuve. Mais si on cultive cette disposition face aux difficultés, eh bien on va avancer. Et on va pas céder à la peur et à la crainte de telle manière qu'on soit une proie facile pour l'ennemi. D'accord ? Le chrétien ne doit pas souhaiter ni rechercher les difficultés, vous êtes d'accord ? Attention, hein. Je n'enseigne pas d'être maso, hein, du tout. Mais si elle survient, il doit être prêt à la supporter pour le Seigneur. Jacques, l'épître de Jacques, au chapitre 1, je le dis en français courant, « Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous aurez à passer par toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance, mais veillez avec à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Le Seigneur me forme dans la souffrance et dans l'épreuve. Il me forme. D'accord ? Une dernière caractéristique, et ensuite je vais vous inviter simplement à prier. On prendra 2-3 minutes. On pourra en ajouter d'autres, hein. C'est peut-être pas complet. Hein. Oui, Odette, vas-y, prends la liberté. Ne sois pas gêné. Oui. Voilà, soyez bénis. Voilà, bon dimanche. Bon dimanche. Voilà. Voilà, une dernière caractéristique. Mais je vous dis, on pourra en rajouter d'autres. Watchman dit dans son livre, il en rajoute d'autres. Mais j'ai voulu me limiter quand même. Hein. Voilà. Fidèle dans les questions d'argent. Fidèle dans les questions d'argent. Ben oui, il faut le dire aussi. Hein. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir de maître. D'accord ? Dieu et maman en même temps, c'est pas possible. Donc le serviteur est désintéressé dans ce domaine. C'est pas quelqu'un qui cherche à s'enrichir. Hein. C'est Paul qui nous rappelle dans Timothée, on n'a rien emporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Bon, le serviteur a toujours un cœur disposé à donner. D'accord ? C'est important d'encourager, quels que soient nos moyens, quelles que soient nos pauvretés, d'accord ? À donner, selon nos moyens, mais il n'y a rien qui nous excuse d'avoir un cœur disposé à donner. Celui qui ne connaît pas Dieu économise pour augmenter son capital, mais le serviteur l'augmente en donnant. L'attitude de Paul, je ne recherche pas vos dons, mais le fruit qui abonde pour votre compte. Philippiens 4, 15 à 17. Juste avant de la prière, donc je rappelle ces choses. Je vous invite à vous lever, on va prier. Donc je rappelle ces 8 caractéristiques avec ces 3 remarques sur la nature du service. Je sers Dieu, pas l'institution, je sers Dieu. Mon service doit être le fruit de la communion. Mon service doit être le fruit de la grâce de Dieu. Je veux manifester par mon service un zèle, une joie, une stabilité, un amour pour tout le monde, pour tous. Capacité d'écouter. Capacité de maîtriser, de mesurer les paroles. Capacité d'apprendre, être souple, enseignable. Je vais être armé de la pensée de souffrir. C'est une pièce de mon armure. Je vais être fidèle dans les questions d'argent. Amen. Je vous invite à fermer les yeux. Et puis simplement si vous sentez cet appel. être serviteur. Hein. Si vous voulez répondre à cet appel que Dieu nous adresse, Dieu nous demande vraiment de marcher avec ce cœur de serviteur. Ben faites cette prière avec moi. C'est pas une obligation, tout ce que je propose là. On n'est pas obligé de le faire. Vous pouvez vous taire si vous sentez pas que c'est d'accord. Mais par contre, si vous êtes d'accord, eh bien, vous l'exprimez avec moi. D'accord? Je vous invite à l'exprimer. Seigneur, j'entends ton appel à faire de moi ton serviteur. Seigneur, j'entends ton appel à faire de moi ton serviteur. Je veux me tenir disponible pour toi et me mettre en marche. Je veux me tenir disponible pour toi et me mettre en marche. C'était la conclusion que je viens d'oublier de mentionner. Certains ont reçu peut-être par mail, par Joël, et après moi je l'ai peut-être envoyé, le témoignage d'un homme né sans bras ni jambes. Non, il y en a qui ont vu ça? Oui, tu l'as vu? D'accord. Et donc, il parle, il témoigne, c'est formidable. Il est rayonnant. Alors que c'est un tronc, là, c'est incroyable. Et il y a un titre à son témoignage, c'est « Dieu ne recherche pas vos capacités, mais votre disponibilité. » Dieu ne recherche pas vos capacités, mais votre disponibilité. À tel point que même un tronc peut être un miracle de Dieu et rendre témoignage à Dieu. C'est ça qu'on veut dire au Seigneur, peut-être. Hein? Seigneur, je veux me tenir disponible. Seigneur, vois mes faiblesses, on veut être vrai dans la prière, vois mes faiblesses dans certains domaines. On peut dire ça, Seigneur, vois mes faiblesses dans certains domaines. Je vous invite, dans le silence de vos cœurs, à dire à Dieu vos faiblesses. J'en ai, vous en avez, on en a tous. Dans un domaine ou dans un autre, dans ce parcours qu'on a fait là, peut-être, eh bien, il y a une faiblesse. J'ai du mal, écoutez, j'ai du mal à aimer. J'ai du mal à être fidèle dans les questions d'argent, j'ai du mal à apprendre, j'ai du mal à être armé de cette pensée de souffrir. J'ai du mal à être zélé en ce moment, j'ai un peu de nonchalance. Ouais. Voilà. Mais on dit, Seigneur, vois mes faiblesses. Vois, regarde. Et nous le disons dans la foi en sa grâce. Et on peut proclamer, une fois qu'on a déposé ça, « Seigneur, je compte sur ta grâce pour faire de moi ce serviteur. Seigneur, je compte sur ta grâce pour faire de moi ce serviteur. Je compte sur le travail de l'Esprit de grâce. Je compte sur le travail de l'Esprit de grâce. » Et on peut proclamer ce verset d'1 Corinthiens 1:30, « Christ a été fait pour moi sagesse, justice, sanctification. » Christ a été fait pour moi sagesse, justice, sanctification. Et le Seigneur dit à chacun, « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Amen. Continuons notre marche vraiment, hein, dans les jours, dans les semaines qui viennent, avec ce cœur de serviteur. Je reparlerai à l'occasion certainement sur ce thème, hein, probablement. Voilà. Je laisse la parole pour les annonces.